Alors, je dois dire d'emblée que j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. J'avais écrit un texte en anglais. Et après en avoir conféré avec d'éminents collègues, il m'a semblé plus approprié de donner la conférence aujourd'hui en français. Et je le fais aussi par reconnaissance et considération pour tous nos collègues étrangers qui ont parlé français aujourd'hui. Ça aurait été un peu absurde d'être le seul à faire semblant de parler anglais ou de broken English. Voilà. Donc je vous prie de m'excuser par avance pour certains aspects d'improvisation, parce que je n'ai pas toujours les mots exacts en français pour dire ce que je veux dire, encore moins peut-être en anglais. Bien. À titre de préface, je ne suis pas spécialiste de global law ou de constitutionnalisme global, même s'il m'a semblé, et c'était la raison d'être de l'idée de conférence qu'on a eue ensemble avec Manon et Olivier de Trouville, qu'il y avait lieu pour des gens qui font du droit constitutionnel classique français d'aborder ce problème, de prendre en charge ce problème du constitutionnalisme global. Confronté à cette littérature du constitutionnalisme global, j'ai simplement quelques intuitions, quelques impressions. Et laissez-moi simplement les formuler, peut-être par esprit de transparence. Ma principale intuition, c'est une hésitation qui ne fait pas de moi un sceptique du constitutionnalisme global, mais en avant même, préalablement même à ce scepticisme de fond, j'ai un scepticisme épistémologique. C'est-à-dire que je ne suis pas au clair sur la relation du discours et du phénomène, sur la coexistence du constitutionnalisme global comme discours et du phénomène constitutionnalisme global. Pour résumer ça par une boutade du philosophe Georges Canguilhem, à une soutenance de thèse, Canguilhem avait dit au candidat: écoutez, monsieur, je comprends bien ce que vous... C'est pas que je ne comprends pas ce que vous voulez dire, parce que c'est pas si compliqué, c'est que je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Et j'en suis évidemment pas là. Je vois bien les éléments de réalité qui sont concrets, on en a parlé ce matin, les fragments constitutionnels de Günther Tegner, les éléments mobilisés ou convoqués par Anne Peters, j'en disconviens pas. Face à ce qui pour moi est langage, j'ai une hésitation sur la ligne de démarcation entre l'élément, la composante de langage et la composante de phénomène. Et j'ai même, pour aller un petit peu plus loin, l'impression qu'une des caractéristiques, qu'un des marqueurs du discours du constitutionnalisme global, c'est une tendance au glissement de l'être vers le devoir. C'est-à-dire une tendance dans les discours qu'on peut rencontrer dans ce domaine-là, à glisser, sans toujours faire apparaître assez clairement le moment où on le fait, de la description à la prescription. De dire c'est comme ça et ça doit être comme ça. Ou c'est déjà comme ça un peu, ça doit être comme ça un peu plus. Vous voyez que c'est une intuition, mais ça se redistribue dans les deux facettes de la médaille, en ce sens que le discours a une propension à l'utopie, pas du tout le seul à le dire, et cette propension à l'utopie se retranscrit comme une description du réel, se pose en parade en description du réel. Je vais le dire à propos de la Constitution européenne, je vais essayer de démontrer à propos de la Constitution européenne. Tandis que du point de vue du phénomène, mais là je ne vais pas m'avancer parce que ça serait trop long et peut-être incertain, peut-être que je n'ai pas les compétences requises, j'aurais une certaine tendance à penser que quand on veut uniquement faire de la description du phénomène du constitutionnalisme européen, un certain effort de réduction s'impose, une déflation pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'on en voit plus qu'il n'y en a. On en voit plus qu'il n'y en a. Mais là, je ne vais pas rentrer dans la discussion, je me renvoie au papier pour qu'il y ait envie de le lire, parce qu'au fond, c'est peut-être un peu trop classique, et mon idée était plutôt que tout ça s'apparente factuellement à du droit international modifié, à de l'objectivation, à de la décontractualisation, à de la déformalisation des sources, à la disparition de la logique de la responsabilité de l'État et de tous ses accessoires, par exemple les contre-mesures, au profit d'une juridicisation des procédures, et ça c'est assez visible dans le droit de l'Union européenne. Je passe sur ça parce que peut-être, n'étant pas spécialiste, je ne vois pas, j'ai été attentif à ce fait que Sabino Cassese a dit l'absolu contraire hier d'avance en disant qu'à ses yeux, ce n'était pas du droit international modifié. Bien. Je passe de la préface, je dirais, à l'introduction. Je voudrais parler d'un cas spécifique, à la fois de globalisation et de réaction à la globalisation. Et c'est ça qui m'a intéressé. Je suis assez convaincu qu'il y a peut-être de la constitution globale et il y a peut-être des constitutions régionales, par exemple l'Union européenne, mais qu'il y a encore beaucoup les constitutions nationales. Et que la question se pose, ça a été dit aussi hier, j'invente rien, de la relation entre les deux. Et ma tendance naturelle, d'hégélianisme naïf, c'est de voir de la contradiction, du conflit, de la tension. Et à regarder comment ça marche dialectiquement. C'est pas pour dire des mots compliqués, mais c'est un peu une tendance de pensée chez moi. Or, là, j'ai le Brexit. Et je ne peux pas me plaindre, c'est exactement le genre de phénomène pertinent. C'est-à-dire, comment ne pas voir, parce que de toute façon, ça, les gens qui défendent le Brexit le disent eux-mêmes, que c'est une réaction à la globalisation. Exemple, les petits fascistes anglais poursuivant des Polonais dans la rue le lendemain du vote en disant « Vous n'avez pas compris que maintenant, il faut partir. Mais to leave is to leave. » Voilà, foutez-nous le camp. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est très politique et que je prends tel qu'il se présente. Une réaction contre le globalisme. N'importe quel journaliste ou article de journal nous le dirait. La question qui m'intéresse, c'est comment ça se constitutionnalise. Parce que naturellement, il y a derrière la décision de partir une mise en musique constitutionnelle, une juridicisation du Brexit. Et je me demande comment ça peut se faire. Je pense que ça ne se fait pas simplement. La brutalité du vote au référendum de juillet 2016, on devait cocher, partir ou rester. La propagande qui l'a accompagnée donne à penser que c'est facile, et pour employer une terminologie du droit international, que c'est self-executing. C'est-à-dire que le Brexit se produit lui-même. D'où la phrase typique de Mme Theresa May, qui est politiquement très riche, « Brexit is Brexit ». On n'a pas besoin de vous dire ce que c'est, ça porte en soi-même son exécution. Or non. Et on voit très bien les problèmes actuels que le constitutionnaliste voit sur son terrain, mais qu'on pourrait voir sur d'autres terrains, du passage à la concrétisation du Brexit. Ma réaction quand il y a eu le Brexit a été de me dire que ça ressemblait beaucoup à une décision schmittienne, que ça ressemblait beaucoup à une décision constitutionnelle de la manière dont ça a été défini par Carl Schmitt, et j'y reviendrai. Une volonté politique exprimant une décision, c'est-à-dire une manifestation de volonté sur la nature de l'État, la nature politique de l'État, ce que Schmitt appelle une décision existentielle, avec un effet d'indépendance, une volonté de manifester son autonomie ou de reprendre son autonomie. Je ne pense pas du tout que ça a été pensé comme ça par les Anglais, ils n'ont même pas la moindre idée, mais je présente ça comme une grille de lecture, une manière externe d'interpréter ça. Et il m'a semblé que ça allait... Évidemment, l'Angleterre, le Royaume-Uni allait quitter l'Union européenne, mais que néanmoins, quelque chose n'allait pas marcher là-dedans et ne marchait déjà pas. C'est pas que je suis contre le Brexit, je m'en fous éperdument. Je suis totalement ni guelf ni gibelin, je suis indifférent au processus. Et pour le dire plus clairement, c'est pour un Québécois qui a travaillé 25 ans sur l'Angleterre comme moi, c'est la première grande décision non modérée que j'ai vue dans la politique britannique en 400 ans. Voire même depuis... c'est la première manifestation que Montesquieu aurait pu se tromper, c'est-à-dire qu'il y a de la non-modération dans la politique anglaise. Ce qui est très intéressant. Mais en même temps, je pense que si ça ne va pas marcher, c'est pour des raisons internes au droit anglais, que je ne vais pas élaborer, mais qui sont là. Mais c'est aussi parce que ça tombe sur l'Union européenne. Que ça vient frapper, si j'ose dire, cet objet assez exotique, international, cette entité qu'est l'Union européenne. Et je vais faire une proposition à ce sujet-là, c'est que l'Union européenne a été conçue pour qu'on ne puisse pas en sortir et conçue pour qu'il ne puisse pas y avoir ce type de décision. Ce que je vais appeler, avec un peu de rhétorique et en exagérant un peu mon propos, une décision de ne pas décider, une contre-décision. Donc je pense que le Brexit, ça peut s'interpréter, ça pourra être peut-être dans quelques mois, tout ce que je dirai là tombera rapidement, mais tel que je le vois maintenant, c'est une tentative de trancher, c'est une tentative de couper le nœud gordien, mais qui justement se confronte à un caractère, une marque originale de l'Union européenne, qui est un côté antipolitique et ce que je vais appeler une décision de ne pas décider, une décision de rendre impossible les contre-décisions de type Brexit. J'essaierai de justifier ça dans les deux parties de mon propos à partir de maintenant, c'est-à-dire d'un côté le Brexit comme décision, de l'autre l'Union européenne et le volet antidécisionnel, de décision de ne pas décider de l'Union européenne. Alors assez rapidement, premier temps de mon propos, j'ai pas trouvé les bons termes, et encore moins en français, je pourrais dire une décision constitutionnelle avortée, c'est un mot un peu trop fort, parce que je ne doute pas que le Brexit aura lieu. Mais voilà, il y a des problèmes. Il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas avoir lieu sur le mode de l'instantanéité, d'une simple décision, un vote référendaire qui se réalise de lui-même. Il y a un bon instrument pour ça, c'est la décision Miller de la Cour suprême du Royaume-Uni du 24 janvier 2017. Je vais aller assez vite, vous avez les éléments dans le papier qui a été distribué. Mais en résumé, tout le monde connaît, j'imagine maintenant un peu le problème, c'est que, alors, premièrement, les référendums en droit britannique étaient rares. Il y en a un petit peu plus maintenant, mais là, vous savez que c'est la souveraineté du Parlement qui est le principe cardinal de la Constitution britannique. La souveraineté du Parlement signifie que les lois parlementaires sont la règle la plus élevée du système juridique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'endroit pour dire que le peuple est souverain. Il est politiquement souverain, c'est une démocratie, mais il n'y a pas d'endroit où on dit, comme en France, article 3 de la Constitution, ou de la Déclaration, consistant à dire « le peuple est souverain, ses décisions sont supérieures à ceux des organes de l'État ». Il peut arriver, c'est ce qui est arrivé en 2016, qu'une loi du Parlement autorise le référendum, autorise l'existence d'un vote référendaire, et en détermine les conséquences. Ce qui s'est produit en 2016, c'est que les conséquences ne sont pas déterminées. Il n'a pas été dit, si un vote oui au départ de l'Union européenne, des associations de l'Union européenne est adopté, à ce moment-là, telles et telles étapes, par exemple législatives, ou alors sera donné pouvoir à l'exécutif pour en tirer les conséquences par le changement de l'article 50. Rien n'a été dit. Donc au fond, l'élément décisionnel ou décisionniste du vote référendaire n'est qu'accru de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une décision de prise. Il est évident qu'elle est constitutionnelle matériellement, politiquement, mais comment normativement cette affaire-là est retranscrite, il n'y a aucune réponse qui vient d'elle-même. Et le problème qui se posait dans l'arrêt Miller, c'était est-ce que l'exécutif a le pouvoir de par lui-même, de son propre mouvement, de déclencher la procédure de l'article 50 du traité de Lisbonne, ou est-ce qu'il faut une habilitation par la loi? Est-ce qu'il faut une loi habilitant l'exécutif à procéder ainsi? Dans le langage anglais, est-ce que ça doit être de la prérogative, c'est-à-dire des pouvoirs inhérents non statutaires, ou est-ce que ça doit être un pouvoir exécutif habilité par une loi d'application de la loi? La seule chose, je ne vais pas commenter l'arrêt Miller, voilà, il y a des éléments dans le papier que j'ai distribué, mais imparfait, mais en résumé, la solution trouvée par la Cour suprême, c'est, comme on le sait maintenant, qu'il faut une loi. Il a fallu une loi, cette loi a été adoptée très rapidement, elle faisait une page. Il était simplement donné pouvoir à l'exécutif de déclencher la procédure de l'article 50. La Cour suprême était confrontée au fait qu'elle était, à mon avis, tentée de qualifier ça de problème constitutionnel sans avoir le vocabulaire pour le faire, parce que nous savons tous que le vocabulaire du pouvoir constituant est étranger au constitutionnel britannique. Il n'y a pas de pouvoir constituant parce qu'il n'y a pas de constitution écrite. Néanmoins, il y avait des candidats. Candidat numéro 1, le vote référendaire de juillet 2016. Candidat numéro 2, la loi sur la communauté européenne de 1972, qui était la loi d'adhésion à la communauté européenne. Sachant que une bizarrerie de l'Angleterre, c'est que la loi d'adhésion à la communauté européenne a antécédé de 2 ans et demi le vote référendaire de 1975, qui était uniquement le résultat du fait qu'à l'époque, les anti-Union européennes, c'était le Parti travailliste, et qu'il a voulu, le Parti travailliste, une fois pouvoir, a voulu tester. Il y a eu une approbation. Donc, au fond, on peut lire cet arrêt Miller de la Cour suprême comme pas une tentative de, parce que c'est pas volontaire, c'est le contraire de ça, mais une tentation de rejoindre asymptotiquement le vocabulaire du pouvoir constituant, mais seulement asymptotiquement parce qu'il est inatteignable à l'intérieur du périmètre intellectuel du droit britannique. Donc on s'en rapproche, on emploie des termes qui en sont très proches, et on mobilise, je donne pas mal de citations dans le texte, plein de phrases, des débats parlementaires sur la loi de 1972, disant que c'est très important, que c'est un choix majeur, que c'est structurellement constitutionnel, etc. Il y a même la notion de loi constitutionnelle qui date de l'arrêt Sobern au Royaume-Uni, qui consiste simplement à dire que c'est des lois tellement importantes qu'on ne peut pas les abroger implicitement. On peut dire, et il était dit dans l'arrêt Sobern, que la loi de 1972 était constitutionnelle. Mais ça ne veut pas du tout dire loi constitutionnelle au sens de la loi constitutionnelle française, ou allemande, ou américaine. Donc au fond, on est gêné aux encournures, la Cour suprême, ne sachant pas quoi en dire, finit par conclure que Il y a besoin d'une loi parlementaire pour autoriser le déclenchement de la procédure de l'article 50, parce que le droit de l'Union européenne constituait une source séparée du droit britannique. Le langage des sources devient un alias ou un chemin de passage pour le langage de la Constitution. Mm-hmm. Comme s'il y a une interprétation de la loi de 72 comme, on dit conduit pipe en anglais, c'est-à-dire une voie de transmission, un tuyau, qui permettait à cette source spéciale qui était le droit de l'Union de rentrer en droit britannique. Et il y a un problème d'interprétation de ce point de vue-là de la loi de 1972. Est-ce que c'est elle qui fait qu'on entre dans l'Union? Ou est-ce que c'est seulement un conduit pipe, c'est-à-dire qu'elle transmet, elle transmet le droit de l'Union, mais qu'il y ait ou non du droit de l'Union, le tuyau est toujours là. C'est-à-dire la conduit pipe, c'est une manière de dire la décision n'est pas dans la loi de 72, elle est dans le traité, et le traité, c'est un accord international conclu par la reine, par la couronne. La loi de 72 n'est pas une loi de constitutionnalisation de l'Union européenne comme l'article 88.1 de la Constitution française. C'est simplement un tuyau. Vous pouvez avoir chez vous des tuyaux et pas de chaleur qui passe parce que vous n'êtes plus abonné au gaz. Oui. Mais l'abonnement, dans mon analogie lamentable, l'abonnement au gaz, c'est des décisions étrangères à la loi de 72. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Là, il est évident, dans cette décision Miller, qu'il y a une liaison avec le problème du pouvoir constituant dans un monde de langage et de pensée où ce n'est pas accessible. L'idée que je suggère, c'est que le cadre schmittien permet de penser ça. Je ne pense pas que les gens, que UKIP, donc le parti du Leave Camp anglais, a lu Schmitt, d'abord parce qu'ils ne disent rien, et deuxièmement parce que ça, voilà, je ne pense pas que ça soit pensable. Mais c'est quand même un peu de ça qu'il s'agit. Que dit en substance Schmitt à propos de la décision, c'est que la décision constitutionnelle, c'est qu'à ses yeux, ce qui est véritablement constitutionnel, c'est une décision politique. Et elle est mise en œuvre, réalisée, concrétisée dans la loi constitutionnelle formelle. De sorte que la Constitution écrite n'est pas le vrai lieu de la Constitution, c'est un lieu secondaire dans lequel simplement est juridicisé, formulé en normes, ce qui a été véritablement décidé par la décision constitutionnelle. Il faut une volonté politique, il faut que cette décision qui procède d'une volonté politique produise du Schmitt. C'est là le moment métaphysique, et c'est le moment où moi je dois dire que je ne comprends plus. Il dit que cette décision doit produire un ordre concret. Donc je veux quelque chose, je suis une sorte de démiurge, ce que je veux devient réel, ce que je veux devient concret. Et qu'est-ce qui est voulu? C'est l'existence de l'unité politique comme un tout, dit Schmitt. Là je traduis le français, qui traduit même, traduit de l'allemand. Donc c'est pas très joli et c'est surtout pas philologique. C'est pas cachère philologiquement. Mais en résumé, c'est quand même quelque chose comme ça. Je pense que penser le Brexit comme une décision constitutionnelle schmittienne, ça marche relativement bien. Cette idée du choix existentiel, cette idée de manifester une identité politique qu'on réclame, qu'on veut reprendre parce qu'elle vous a été refusée, cette idée que la volonté n'est pas la norme et est plus importante que la norme, que ce qui est véritablement normateur, c'est pas la norme, c'est une décision politique existentielle qui protège, dit Schmitt, qui protège l'existence, l'intégrité, la sécurité. Je ne pense pas que le UKIP ou que le camp du livre a lu Schmitt, mais je pense que si on accole cette grille de lecture, ça a quelque chose d'explicatif. Il y a des limites à ça. Par exemple, Schmitt dit que la décision est préalable à la Constitution. Ici, la décision n'est pas préalable, elle est en cours d'un processus constitutionnel de longue durée, parce que non écrit. Schmitt dit aussi que la décision constitutionnelle doit être un acte conscient. Ici, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement d'acte conscient. Le caractère conscient, la conscience de soi n'est pas complète. Mais on voit bien que c'est quand même le goût de poursuivi, l'idée de consolider, de retrouver une identité constitutionnelle. L'idée que le peuple a une importance dans la démocratie britannique que le droit constitutionnel ne retranscrit pas pleinement. La notion de peuple n'existe pas vraiment en droit britannique, c'est le Parlement qui est souverain. Néanmoins, c'est une démocratie. Et néanmoins, il y a là, comme dans les nationalismes constitutionnels, voire même les populismes, ou ce qu'on appelait en France le souverainisme, il y a un noyau universalisable qui est l'idée d'autonomie. On peut penser ce qu'on veut de tous ces projets constitutionnels, et pour ma part, j'en pense pas du bien. L'idée d'autonomie est présente, et cette idée d'autonomie, elle est au cœur de la politique moderne. Donc l'idée de reprendre, je connais des gens raisonnables qui ont voté pour le Brexit, et ils disaient toujours, en substance, la loi de Bruxelles n'est pas l'expression de notre volonté générale. Ça, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans qu'on ne peut pas seulement rejeter sous le label du populisme. Donc il me semble que c'est pas l'idée de défense, l'idée de regagner une identité, cette politique de l'identité. Loin de moi l'idée de penser que c'est entièrement fonctionnel. Et indépendamment de tout jugement de valeur politique, je pense plutôt que ça ne marche pas. Il y a des raisons. Alors là, je suis passé de Elvis Presley au début de mon texte à The Verve, groupe maintenant un peu oublié des années 90, dont l'un des deux grands hits s'appelait The Drugs Don't Work. La drogue, ça ne marche pas. Et je pense que les boissons fortes sont séduisantes intellectuellement, mais qu'elles sont souvent inefficaces. Et là, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un côté de goût pour les boissons fortes, un côté de drogue dure. On a un moment d'illusion, on a un moment où on est sous l'empire de la drogue, et puis ensuite ça retombe. Ça retombe pour des raisons théoriques, et je vais passer sur ce point-là parce que je n'ai pas le temps. Je pense que la décision schmittienne, il y en a, mais il n'y a pas que ça, et la manière qu'a Schmitt de présenter ça me laisse un petit peu sceptique. En résumé, ça cachait l'idée que le folk allemand, avec la volonté du Führer, allait prendre une décision, c'était quand même assez téléologique, on le voyait bien. Mais il y a autre chose. Et l'autre chose, c'est comme je l'avais dit en introduction, c'est que le Brexit est une volonté de quitter l'Union européenne. Et que l'Union européenne, c'est un objet politique avec des particularités qui font que ce genre de projet va être gêné, que ce genre de projet va rencontrer des problèmes d'application, et ça va être ma deuxième partie dans les 9 minutes et quelques qui me restent. J'ai proposé de dire que l'Union européenne pouvait se comprendre, enfin que génétiquement, on pouvait essayer de cerner une décision de ne pas décider. Une création de l'Union européenne qui a été faite avec des caractères structurels assez distinctifs pour ne pas permettre de décision. Et là, j'en reviens à ce que j'avais dit en préface sur le caractère utopique parfois du discours du conciliationnisme global. Prenez ce qui s'est dit après 2005, pas le vote français, mais quand le traité Giscard a été adopté. Regardez la littérature de cette époque-là. J'ai pris comme exemple, mais c'est un pur exemple, les propos d'un juriste que j'admire beaucoup, qui est Miguel Maduro. Miguel Maduro avait écrit un article en disant « Le traité constitutionnel, c'est formidable, ça va permettre une nouvelle culture constitutionnelle. » Vous avez le texte, page 11 en anglais, il disait « Further extend the authority of constitutionalism. » Certes, c'est pas une constitution écrite, mais ça n'a pas toutes les caractéristiques d'une constitution, mais ça va permettre de constitutionnaliser le dispositif. Et par exemple, page 12, vous voyez qu'il dit qu'il y aurait un legitimating effect, un mobilizing effect et un discursive effect. Il disait Europe's constitutional discourse will no longer be the exclusive domain of the law and lawyers. Has it indeed? Est-ce que ça s'est produit tout ça? Réponse simple. Du journal 20 minutes qu'on distribue le matin, non. Non, ça ne s'est pas produit. With all due respect, ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu. Tout ça ne s'est pas passé. L'Union européenne n'est pas devenue une constitution. Le traité Giscard a été en gros rejeté par les peuples. Le traité de Lisbonne a été une contre-décision du type que j'évoquais tout à l'heure. Mais ça ne s'est pas produit. Pourquoi? Je pense que c'est, si on regarde la stratégie, disons, des pères fondateurs, de Spolan Ispac, de Jean Monnet, etc. On peut détecter un certain dessin, une sorte de grand dessin un peu à l'envers, qui était de ne pas mettre la politique sur la table. Qu'il n'y ait pas de politique sur la table, tout le monde le sait. On sait que les idées de Jean Monnet, c'est que l'économique doit être le véhicule du politique. Mais en réalité, l'économique, il est son propre véhicule. Et quand il politise un processus, ça reste un processus économique, même s'il y a des éléments de politisation à l'intérieur. Dans un très bon livre que j'ai trouvé très bon, quelqu'un qui est, je crois, un élève de Bruce Ackerman, qui s'appelle Turkeler et Zixel, qui s'appelle Europe's Functional Constitution, a démontré, à mon avis, de manière assez convaincante, qu'il y avait dans le projet même de l'Union européenne un telos qui était fondamentalement économique et qui reposait aussi sur une certaine crainte vis-à-vis de la démocratie, un certain manque de foi vis-à-vis de la souveraineté populaire et vis-à-vis des parlements, vis-à-vis de la souveraineté parlementaire. On pourrait, si on allait dans le sens que je suggère, comprendre tout ça. On peut dire qu'il y a une décision ou non, ça ne m'obsède pas, mais il y a une intention, il y a un choix. Il y a quelque chose qu'on voit à l'intérieur des structures, c'est pas objectif, même s'il n'y avait pas de texte permettant de l'établir dans la pensée d'un tel ou d'un tel, la structure même de l'UE produit ce que je pourrais appeler une sorte d'effet déconstituant. Et on le voit à différents caractères. Un effet dépolitisant qui me semble assez clair. Le télos, l'objet même de l'union qui éprouve de grandes difficultés à passer au stade du politique, c'est-à-dire qu'il y a le manque, il n'y a pas que le déficit démocratique, il y a le déficit de ce qu'on appelle la finalité politique. Et plus on dit qu'il va y en avoir une, plus on dit dans les traités qu'il doit y avoir une union toujours plus, je n'ai plus la formule en tête, une union toujours plus croissante, moins il y en a, en résumé. C'est-à-dire que le verbe ne s'autoproduit pas, il n'y a pas d'effet sacramentel du verbe, du droit de l'union ou des traités. Par contre, le volet welfariste, le volet de produire de la croissance économique, lui, il est toujours là de manière assez présente. Et il est même là à travers les autres finalités prétendues. CF, les arrêts, l'arrêt viking, par exemple, c'est-à-dire les libertés économiques l'emportent sur les libertés fondamentales. Oui, ça l'emporte sur les droits là où il y a conflit. Je propose dans le texte écrit de dire que dans l'Union européenne, le télos l'emporte sur le démos. Le télos économique met de côté la possibilité d'un « we the people » ou d'un « we the peoples » européen. Et quand on met de côté, si on fait ce que j'ai proposé en préface, c'est-à-dire si on essaye d'établir une ligne de démarcation entre le langage et le phénomène. Quand on regarde le phénomène de l'Union européenne, je trouve que ça va plus dans le sens d'un ordre juridique approfondi, ce que j'ai appelé dans mon texte un super legal order, un ordre juridique renforcé, que d'une constitution. Et j'en veux pour preuve un tout petit moment d'interprétation des grands arrêts sur la constitution européenne. Prenez les Verts. Vous prenez d'un côté, c'est un petit exercice, vous prenez Wangen-Enlos d'un côté, 63, et les Verts 83. Les Verts 83, ça rajoute un mot sur quelque chose qui était déjà là dans Wangen-Enlos, c'est-à-dire primauté et effet direct. Et qu'est-ce que ça ajoute les Verts? Ça ajoute le mot constitution. Je résume, évidemment je simplifie, mais il y a cette idée qu'on trouve. Pourquoi est-ce que dans l'arrêt Les Verts de 83, il est dit qu'il y a une charte constitutionnelle, que les traités sont une charte constitutionnelle? Parce qu'il y a cette idée d'une communauté fondée sur le droit, community based on the rule of law. Et en réalité, il me semble qu'il n'y a pas tellement plus. C'est-à-dire que le vocabulaire du constitutionnalisme dans la production jurisprudentielle de la Cour de justice européenne est un vocabulaire de la communauté juridique, d'une communauté de droit avec des caractéristiques structurelles qu'on connaît tous. Je les ai un petit peu citées, l'effet direct, la primauté, ce qui est appelé le complete system of legal remedies and procedures dans d'autres arrêts. Et cette tendance à identifier constitution et ce que j'appelle un super legal order, un ordre juridique approfondi, a continué, par exemple, avec la décision protocole de Carthagène de 2001 ou avec la décision de 2014 sur l'accession de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Ce que je ne vois pas, pour tout dire, enfin ce que j'ai écrit, moi je l'inverse, ce que je vois, c'est dans le discours doctrinal un peu utopique, je prends comme exemple Miguel Maduro, dont je répète que c'est un immense juriste, donc j'admire beaucoup, c'est la tendance à voir dans ces éléments de juridicisation de l'Union, de la Constitution. Par exemple, Maduro voit Wangen-Enlos et il dit en résumé, grâce à ce qui est dit dans Wangen-Enlos, c'est-à-dire que désormais, il y a un lien direct entre les normes de l'Union européenne et les peuples, il dit ça c'est de la constitutionnalisation, ça c'est de la constitution. Je regrette, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu lien direct, je crois qu'il y a eu juridicisation, il y a eu prise en charge par les juges. L'élément de fabrication d'un démos par la primauté et par l'effet direct ne me semble pas factuellement présent. On pourra me dire si on pense le contraire. Mon temps est presque écoulé, je vais terminer. Je pense qu'en réalité, il y avait des composantes, si vous me donnez deux minutes
Vous êtes plus de...
Merci beaucoup. Je ne vais pas abuser. Je crois qu'il y avait des composantes de clôture structurelle de l'Union européenne. Et ça a été dit extrêmement bien par Joseph Weiler, un des immenses spécialistes du droit de l'Union européenne. On voit dans la conception de l'Union antérieure à Lisbonne et à l'article 50 qu'il est quasiment impossible d'en sortir. Il y avait des arguments très sérieux consistant à dire que unilateral withdrawal, la possibilité de se retirer unilatéralement, était impossible juridiquement. C'était dit dans le discours de spécialistes de droit de l'Union. Robert Lecour, politique français qui a été un des présidents de la Cour de justice, avait écrit « Les traités ne prévoient, c'est en 76, donc bien avant Lisbonne, bien avant le Brexit, les traités ne prévoient aucun mécanisme d'aller et retour. On a parfois parlé d'Europe à deux vitesses, mais jamais d'un droit communautaire à marche arrière. Ce que j'ai formulé, c'est une formule un peu familière anglaise, en disant « You don't get to exit the EU », vous ne sortez pas. Il y a un effet cliquet. On rentre, mais ce n'est pas conçu pour qu'on en sorte. Alors, vous allez me dire « C'est faux, évidemment que le Royaume-Uni va en sortir, très probablement, politiquement. » Mais, je vais à peu près terminer là-dessus, la dernière étape du Brexit pour le moment, c'est le projet de ce qu'on appelle le Great Repeal Bill, c'est-à-dire la loi qui va concrétiser la sortie de l'Union. L'article 50 a été déclenché, mais il faut maintenant une loi qui dit le contraire de la loi de 1972, du European Communities Act. Ce Great Repeal Bill, il pose un énorme problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'acquis communautaire ? Eh bien, dans les projets dont on dispose, et dans le livre blanc du gouvernement, dans le rapport de la Chambre des communes qui est disponible, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le Great Repeal Bill ? Deux choses. Premièrement, mettre fin à la suprématie et à l'effet direct. Deuxièmement, concrétiser la décision de quitter l'Union. Troisièmement, conserver l'acquis communautaire. reprendre en bloc tout l'acquis communautaire, parce que c'est impossible autrement. C'était très bien dit par Weiler, beaucoup plus tôt, je crois que c'est de 93, au début des années 90, son grand article sur la transformation de l'Europe. Weiler disait « If total exit is foreclosed, c'est-à-dire impossible, il y a une clôture, on ne peut pas le faire, it's because of the high enmeshment of the member states on the potential for political and economic losses ». C'est-à-dire, lui ne croyait pas à la thèse juridique de l'impossibilité de l'exit, il disait simplement que le coût serait trop élevé, parce que le droit de l'Union est rentré dans le sang des pays. Le droit de l'Union est tellement important, représente 33% de tout le droit britannique, c'est-à-dire une estimation qui a été faite. Donc en réalité, il y a quelque chose d'irréversible au droit de l'Union. Comme on dit dans les films de gangsters, vous pouvez quitter l'Union européenne, mais l'Union européenne ne vous quittera pas. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci.